Nous sommes en 40 000 avant Jésus-Christ, mais il y a tout. Ce virus qui paraît loin chez l'homme de Pékin, le conseil de se laver le pouce préhenseur plusieurs fois par jour et tout ira bien. Mais finalement, la fermeture de toutes les écoles du Paléolithique, un confinement de l'ensemble de la chaîne du vivant, la super hutte vidée de ses paquets de pâtes, la vie enfermée dans la caverne avec les parents, les plus riches qui partent dans leur volcan de campagne, les larmes de l'aide chamane. Bonjour Jules.
Bonjour.
Auteur, dessinateur de bande dessinée et donc de ce 9e volume de Silex and the City, la dérive des confinements qui vient de sortir aux éditions d'Argo. Nous parlerons aussi bien sûr du dernier Lucky Luke, un cow-boy dans le coton, publié également il y a peu de temps. Mais d'abord donc cette dérive des confinements, c'était évident que le virus devait arriver dans la vallée.
Et oui, parce que Silex and the City, depuis maintenant 10 ans, tient un peu la chronique de notre époque contemporaine, vue par le petit prisme de l'âge de pierre. Et en même temps, voilà, il faut attendre qu'il se passe quelque chose de significatif dans la société.
A priori, c'est significatif.
C'était pas prévu, en fait, que j'écrive un album cette année, parce que précisément, il y avait ce Lucky Luke. C'est pour ça qu'on se retrouve ce matin avec 2 albums posés sur la table. Mais c'est vrai que c'était trop incroyable ce qui arrivait. Et puis, juste aussi, on en avait besoin. Moi, j'en avais besoin parce que j'en pouvais plus d'être enfermé dans ma caverne. Avec mes Dolto Sapiens et qu'il fallait vraiment réussir à mettre ça à distance. Et puis en fin de compte, plus c'est absurde, plus on a l'impression qu'on devient fou, plus finalement à la fois le rire, ce petit pas de côté qu'il peut y avoir justement dans ce genre de bande dessinée satirique, libère d'une certaine façon. Et donc effectivement, le précédent album, ça faisait déjà 2 ou 3 ans qu'il était sorti, le précédent Silex and the City, c'était l'homme de Cro-Macron qui arrivait au pouvoir avec le Paléolithique en marche. Et bon, il s'était rien passé vraiment que je pouvais appréhender réellement. Et là tout d'un coup, patatras, tout arrive. Et évidemment, cet album s'est complètement matérialisé devant mes yeux sans même que je puisse dire ouf.
Alors c'est effectivement une transcription de notre premier confinement. Justement, quand et comment avez-vous imaginé cet album, ce moment de la famille .com? Est-ce que c'était en temps réel où vous vous disiez « bah ça, je pourrais en faire ça » ou est-ce que c'est avec un peu de recul, après coup, vous vous êtes dit, bon, effectivement, là, il faut en faire quelque chose.
C'était un peu les deux, parce que tous les 2 jours, la grande équipe de scénaristes qui a décidé d'organiser 2020 sur la planète Terre se renouvelait avec un cliffhanger, du suspense et des coups de théâtre, jusqu'à aujourd'hui, finalement. Et donc, il a fallu que, en tant que scénariste, je prenne les choses un petit peu, je prenne les devants, et que j'anticipe aussi, parce que c'est notre vertu, normalement. Les dessinateurs d'humour, très souvent, ils ont une longueur d'avance. Ils prévoient ce qui va se passer.
Là, si vous arrivez à prévoir, vous êtes très très fort.
Ça s'est passé un peu pour le Lucky Luke. Le mouvement Black Lives Matter qui avait des mois et des mois d'avance, et ben pour Silex and the City, par exemple, le deuxième confinement qui était déjà en germe finalement, et le fait que, en fait, à partir du moment où on se met à spéculer sur l'idée que tout est absurde et irrationnel, et que finalement les décisions qui sont présentées comme des choix pesés, de la raison scientifique, cadrés, en fait sont de la pure improvisation, puisqu'on ne sait pas, comment les sociétés vont réagir, on ne sait pas quel est ce virus exactement. Et donc le coup du deuxième confinement avec une petite partie des commerces ouvertes, l'autre non, tout ce mouvement autour de l'accès à la culture. Là, par exemple, ils n'en peuvent plus, les hommes préhistoriques de Silex and the City. Dans la dérive des confinements, il y a le père, celui qui est prof de chasse. Lui, il rêve de pouvoir retourner au stade, voir le primat de Saint-Germain contre l'Erectus de Turin. Bon, c'est pas de sitôt. La mère, qui est prof de préhistoire géo, elle avait pris des billets pour aller voir le lac des singes au Palais Opéra. Pareil, il se passe rien. En revanche, les autorités de la vallée décident de rouvrir le grand volcan récréatif, en fait, qui s'appelle le Puits du Feu. Et c'est l'endroit où tout le monde se précipite. Toute la chaîne du vivant va se jeter dans le volcan.
On a bien noté. La 4e de couverture présente cet album comme un vaccin. Et c'est vrai qu'on rit pas mal. Jules, il y a effectivement cette distance de Silex and the City qui fait qu'on rit de nous-mêmes au final, parce qu'on se retrouve forcément un peu dans les remarques des uns des autres, dans les comportements des uns des autres. On s'y retrouve, on retrouve des personnes que l'on connaît. On est tous un peu dans cet album.
Oui, parce que en fin de compte, comme toujours, c'est un album choral. Et donc, on retrouve à la fois les voisins qui dénoncent voilà, telle famille, ils hébergent une famille de chauves-souris au fond de la grotte. Parce qu'on était tous en train de s'observer les uns les autres. Et puis, c'est ce délire de la paperasse qui nous a tous concernés. Là, dans la dérive des confinements, il faut signer une attestation d'évolution dérogatoire pour avoir le droit d'évoluer. Alors, soit évolution à moins d'un kilomètre de sa caverne, soit évolution pour des motifs familiaux impérieux. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est. Évidemment, c'est avant l'invention de l'écriture, mais ils ont déjà inventé la paperasse.
Ils sont très forts. Et on rit un peu nerveusement aussi, Jules, justement, en vous lisant, parce que ce premier confinement, qui est donc dans cet album, il nous paraît déjà loin. Et en même temps, ce que vous disiez juste avant, on n'en est toujours pas sorti.
Oui, oui, il y a encore plein de surprises. La crise économique qui est un petit peu effleurée, parce que évidemment, c'est l'effondrement des énergies fossiles. Alors les gens essaient de revendre tous leurs vieux fossiles du tertiaire et du primaire, parce qu'ils savent que ça vaut plus rien. Effectivement, eux, ils se félicitent, ils disent heureusement qu'on ait fait partie de l'éducation néandertale, parce que moi, on a un job, tous les autres métiers, c'est moins évident. Donc, toutes ces choses-là, on va encore en subir moult conséquences. Donc, effectivement, on ne sait pas. C'est pour ça que c'est un peu un viatique et que ça aide à traverser les ténèbres telles qu'elles s'annoncent aussi, les ténèbres futures, comme dirait Baudelaire.
Là, ça vous inspire justement quelque chose, la période bizarre que l'on est en train de vivre, plutôt déprimé, plutôt tendu, ce que nous vivons cet automne-hiver. Est-ce que ça vous fait encore rire? Est-ce que vous arrivez à en rire, à imaginer en rire?
C'est le seul moyen finalement, parce que l'impuissance totale, lorsqu'on est enfermé après le couvre-feu à la maison, elle ne peut être combattue que par ça en fait. Sinon ça déclenche des comportements encore plus irrationnels chez chacun d'entre nous. Là, il va y avoir le chapitre suivant, qui est l'histoire des vaccins, ceux qui vont pas vouloir se faire vacciner, etc. Et puis aussi, c'est marrant de regarder le nouveau suspense, c'est voilà, que l'homme de Cro-Macron soit isolé maintenant dans sa caverne parce qu'il a été testé positif. C'est quelque chose que, voilà, on aurait pu anticiper, mais en même temps, qui est étonnant à voir mis en scène par le pouvoir. Tout ça, si on n'a pas cette verticalité du rire qui finalement nous fait nous redresser, qui nous rend une forme de liberté, une forme de recul, on est obligé de ployer l'échine à la fois devant toute cette négativité, la dimension réelle de ce drame avec les morts, les souffrances, mais aussi la dimension fantasmée, cette espèce d'injonction à la fois des slogans publicitaires, des slogans médicaux, le biopouvoir si... On a le droit de parler de Foucault sur France Culture, de Bon Matin.
On a le droit.
C'est-à-dire cette contrainte, je dirais, des corps, cette contrainte des esprits qu'on subit tous et à la fois qu'on est obligé d'intégrer comme étant légitime, ça rend un peu givré. C'est pour ça qu'entre deux glaciations, ça fait du bien de se marrer un peu.
Et vous parliez des vaccins. Même les controverses scientifiques, ou en tout cas, ça apparaît déjà dans ce premier album, dans cette première partie, la dérive des confinements.
Oui, parce qu'il y a un professeur, en fait, c'est un primatologue spécialiste des virus, comme ça, un primate plutôt, du sud de la vallée, qui s'appelle le professeur Oraoultan, et qui a inventé le remède miracle, c'est la bananosilexidrine. Alors, c'est un mélange de banane écrasée et de silex pilé, comme ça, et puis si on avale ça, normalement, on s'en tire. Alors, c'est pas exactement démontré, mais toute la préhistoire espère beaucoup.
Espère beaucoup. Et il y a aussi dans la réaction des personnes, des personnages, dès le départ, ceux qui dénoncent la dérive hygiéniste, ceux qui, au contraire, ont peur. Le personnage de cette aide-chamane aussi, qui juste avant le début de l'épidémie, vient d'avoir un travail à l'hôpital Sainte-Bactérie, c'est ça?
Voilà. Et puis, alors au début, tout va bien, mais ils sentent que c'est un peu tendu, que pour les espèces qui n'ont pas de branchies, qui n'ont que des poumons, il va falloir trouver des branchies de secours, et puis on va être un petit peu en rade. Et puis, il y a tout ce système des masques. On ne pensait pas que ça prendrait autant de place dans nos vies. Et puis, petit à petit, c'est envahissant. Mais effectivement, il y a un côté, jadis, que pour les épidémies, c'était la religion, la sorcellerie, l'étalisme qui nous aidait à mettre en arrière les pestilences. De la même façon, en fait, dans Silex and the City, il y a cette même fonction un peu magique du masque, parce que c'est ces grands masques un peu qui ressemblent aux masques de sorcellerie, comme ça, que les gens fabriquent à la maison pour aider, justement, dans les hôpitaux. Alors, ils portent tous des masques comme ça, et puis ils font des rituels un petit peu autour des gens qui sont malades. Parfois, ça, on a l'impression que ça a autant d'utilité que certaines choses qu'on a entendues pendant tout le temps de cette épidémie depuis qu'elle a commencé.
Alors, vous êtes agrégé d'histoire, Jules, vous êtes spécialiste de la Chine, on en parlera plus tard tout à l'heure dans la fabrique médiatique. Finalement, ce que vous faites dans Silex and the City, avec la distance impliquée évidemment par le détournement et par l'humour, c'est quand même un petit exercice d'histoire du présent, on peut dire ça?
Oui, c'est une chronique, en fait. Voilà, c'est une façon de mettre des espèces de de pierre, de reconnaissance, comme ça, sur un petit chemin qu'on est en train d'emprunter. On ne sait pas vers où on va, mais on peut peut-être retourner en arrière grâce à ça. Et en fin de compte, c'est vrai que au début de Silex and the City, je crois le premier tome est sorti en 2009, il y a 11 ans. On se disait, oui, mais c'est un peu trop lié à l'actualité, peut-être que ça va se périmer, en fait, ce genre d'humour, parce que c'est pas une espèce d'almanach comme ça, où une année plus tard, on ne sait plus trop de quoi on parle. Mais en fait, non, parce que les tendances de société, c'est des tendances très très lourdes. Le fils alter darwiniste, justement, qui est pour une défense de l'environnement, qui a très très peur du réchauffement de la planète alors qu'on est à peine dans une interglaciaire, qui veut plus qu'on utilise qui jette les fourrures dans le feu, qui se bat pour la cause animale. En fin de compte, c'est des choses qui vont nous accompagner. Le terrorisme, en fait, il y a un album, un des tomes qui s'appelle Vigiprimate, en fait, qui est justement sur cette réaction de la société par rapport à une espèce de terrorisme. On va vivre avec encore pendant 20 ans. Donc, en fin de compte, Silex and the City identifie bien souvent des choses qui vont être la totalité de nos existences pendant des décennies. Et donc, ça continue à fonctionner, en fait. Et le fait qu'il y ait cet esprit de série, qui était un peu quelque chose de nouveau pour moi, parce qu'ensuite, j'en ai fait d'autres, un peu sur la mythologie grecque, qui nous servait aussi à parler d'aujourd'hui, 50 nuances de grec. Mais Silex and the City, c'est vraiment pour moi, avant l'invention de la roue, une espèce de Rolls-Royce qui me permet de voyager à travers notre inconscient collectif.
Et c'est aussi, tout comme 50 nuances de grec depuis Silex and the City, c'est aussi une série animée diffusée sur Arte. On va écouter un extrait, c'était dans la saison 5, Les Cahiers, l'apostrophe, Les Cahiers du cinéma.
Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toutes ? Non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution.
Franchement, quand on revoit Bonobo le fou, on se dit que Mollusque Godard est quand même un pur génie. C'est canon cette rétrospective organisée par Télérama Pitech.
C'est surtout fantastique que Godard soit venu en personne présenter ses films. Je croyais qu'il sortait jamais de sa coquille.
Est-ce que vous pensez que des cinéastes comme Anchois Truffaut ont réellement bouleversé la chaîne alimentaire ?
Quand on a projeté les 400 poulpes, je me suis dit, soit tu fais quelque chose d'aussi bien, soit tu vas te jeter dans le lac de Genève. Sans la nouvelle vague, je ne vois pas comment les êtres vivants seraient sortis de l'océan primordial.
À force de supporter la médiocrité de notre vallée, j'avais oublié à quel point la préhistoire pouvait être passionnante. Quand j'entends tous ces débats, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de se fossiliser.
Et si on allait lui parler, il pourrait sûrement nous donner des super conseils.
Tu crois ?
Mollusque, Godard et Anchois Truffaut, alors... Vous allez nous dire qui fait la voix de Mollusque Godard ?
Oui, alors parce que c'était un peu un petit quiz pour les auditeurs aiguisés, les oreilles aiguisées des auditeurs de France Culture. C'est Antoine Debecq, l'historien, qui sait très bien, je l'avais entendu dans un dîner à Blois pour les rendez-vous de l'histoire, imiter Jean-Luc Godard. Je me suis dit, mais ce mec, il me le faut pour le casting des voix. Donc c'est lui qui fait Godard. Oui.
D'accord, Mollusque Godard et Anchois Truffaut, donc... On a voulu écouter cet extrait parce qu'en ce moment, voilà, pas de cinéma, pas de théâtre, pas de concert, pas de musée. Vous, Jules, quand il a été décidé de fermer les librairies à l'automne, vous avez démissionné, comme d'autres, de votre rôle de parrain de l'année de la BD pour marquer votre désaccord. Vous avez fait des dédicaces en plein air. Là, que pensez-vous de cette situation concernant les lieux de culture et que pensez-vous des réactions, des débats que cette situation entraîne ?
Prendre les différentes questions à l'envers, ces débats et ces réactions, avant tout, représentent ce qui caractérise un petit peu la France depuis maintenant plusieurs mois, qui est cette espèce de tendance à la fracture absolue, à une espèce de balkanisation en fait de chacun d'entre nous. On a été isolés dans nos appartements et d'une certaine façon, on se retrouve isolés dans autant de micro-communautés. Les cordonniers contre les fleuristes, les libraires contre les patrons de salles de concert. Chacun essaie de gagner, de rogner un petit privilège, justement au détriment d'autrui éventuellement. Et en fait, que ce soit des questions de génération, que ce soit des questions de milieux sociaux ou d'idéologie, il y a une tendance qui est extrêmement alimentée, je dirais, comme pour essayer d'agiter un chiffon rouge, à cette fragmentation. Et il y a très peu de choses qui finalement peuvent nous donner les outils de réunion, de communion, d'histoire commune et d'envie de faire des choses. Et justement l'humour, justement la culture a cette vertu-là. malgré tout, peut-être que c'est pas le bien aussi essentiel qu'on voudrait le brandir parfois, mais en fait, si, il y a quand même cette vertu-là de pouvoir faire de nous des gens qui veulent vivre ensemble et qui ont quelque chose, une direction vers laquelle regarder en commun, et particulièrement l'humour, qui peut réunir des générations différentes et des milieux différents. C'est valable pour Silex and the City, c'est encore plus valable pour Lucky Luke, dont on parlera sûrement.
Oui.
C'est-à-dire ces espèces de grands héros patrimoniaux. Ces séries qui fait que les enfants, les parents, les grands-parents se retrouvent par-delà la fragmentation des écrans, parce qu'il y a aussi une espèce de structure de la consommation culturelle qui fait qu'on est soi-même à la fois très très identique à tous les autres et en même temps justement un consommateur unique pour lequel les algorithmes ont calculé exactement quels seraient nos goûts à venir en fonction de nos choix précédents, de notre profil sociologique, de nos data en général. Et donc en fait, comme chacun a son propre écran, qu'un foyer en moyenne a 8 écrans je crois aujourd'hui, on a des espèces de micro-univers bulles et en fin de compte des choses qu'on a en partage. Et c'est valable pour la musique, c'est valable pour le cinéma, évidemment les séries, c'est valable pour ce qu'on lit. Ne parlons pas la danse ou l'art contemporain qui touche à chaque fois des micro-communautés, mais qui ne sont pas quelque chose qui ferait nation aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui sont complètement à côté de tout ça. Évidemment les médias aussi qui sont consommés à la carte. Quand il y a des choses vertueuses de bande dessinée, par exemple, parce que c'est ce que je connais, mais de quelques arts comme ça qui arrivent à refaire groupe, c'est très émouvant, c'est une responsabilité exceptionnelle et c'est quelque chose à chérir et à nourrir. Quand on a démissionné de cette histoire d'année de la BD, c'était pas seulement un mouvement d'humeur de diva, c'était juste pour dire, voilà, le slogan c'était « La France aime la bande dessinée ». Bah oui, elle a raison, mais là, elle le montrait pas.
Et alors justement, là, il y a un référé concernant les lieux de culture donc, qui devrait être examiné par le Conseil d'État en début de semaine. Il y a eu des manifestations. Est-ce qu'il faudrait autre chose de la désobéissance ou est-ce que justement, si on va dans cette direction, on alimente cette fracture que vous décriviez?
Oui, moi, ma seule réponse, c'est cette espèce de pas de côté, d'esprit critique qu'on peut exercer et de pouvoir continuer à raconter aux autres et à faire circuler cette non-conformité, ce refus des injonctions permanentes ou en tout cas ce recul qu'il peut y avoir par rapport à ça. L'esprit critique, on est aussi dans une suite qui a débouché sur l'assassinat de Samuel Paty il y a très peu de temps, mais d'événements et de choses qui font que l'esprit critique et cette espèce de... J'aime pas dire le mot insoumission, parce que maintenant c'est une espèce de label politique qui a été un petit peu préempté, mais en tout cas, voilà, c'est de le côté un peu Mustang sauvage qu'on peut tous avoir est à cultiver quand même en chacun d'entre nous, et ça y contribue.
Mais à cultiver donc... intellectuellement, quoi.
Intellectuellement, par à la fois, mais des choses élémentaires d'amitié et de fraternité. En fin de compte, malgré les dissensions qu'on peut avoir dans un immeuble, quand on voit des assemblées de copropriété ou des locataires qui s'engueulent, le fait que, en fin de compte, il y a eu des micro-cellules de vie qui se sont constituées pendant ces moments de confinement, c'était magnifique. En fait, on se remettait, à Paris et dans les grandes villes, on se remettait au niveau du terroir, ce que c'était un terroir urbain, c'est-à-dire enraciné. Bah, c'est la cage d'escalier, en fait, c'est le palier de l'immeuble. Et en fin de compte, on voyait pas tellement plus loin que le bout de notre nez. On avait beaucoup de d'œillères, on avait ce rayon d'un kilomètre autour, les commerces plus ou moins fermés. Et ce côté, ce terroir-là, alors que plein de gens étaient allés dans Silex and the City, on se marre de cette différenciation qu'il y a entre les confinements. Si on est confiné en arboricole avec vue sur le volcan, c'est pas du tout la même chose que si on est un protozoaire et qu'on vit à 12 millions dans un centimètre carré de rocher. Mais cette chose-là, en fait, ceux qui étaient restés dans les grandes villes, ils ont retrouvé par-delà le cosmopolitisme, les touristes, les loisirs. Quand tout est fermé, quand il reste plus rien, il reste cette âme-là de la ville, cette âme qui est ultra littéraire, qu'on a raconté au 18e siècle, au 19e siècle dans la littérature, qu'on pensait déjà morte, mais en fin de compte, non. C'est-à-dire que le terroir enraciné dans les caves des immeubles parisiens, il est resté, et il est sorti comme à marée basse, un petit peu comme la laisse de mer. On voyait en fait ce qui restait de profond. Cette chose-là, elle existe encore. La société n'est pas qu'une horizontalité, je dirais, sans dépourvue d'âme. Et en fait, en même temps, elle est rare, comme certaines espèces en voie de disparition. Donc en fait, il faut la chérir et la préserver comme on préserverait la biodiversité. Et le rôle de la culture, c'est ça. C'est une espèce de préservation d'une richesse encore même pas complètement définie.
Sinon, on risque de se fossiliser, comme dit Webb dans l'extrait qu'on a entendu.
voilà, être ou d'être dans, comme c'est la baie de Yokohama où toute vie biologique a disparu.
Merci Jules, vous êtes avec nous jusqu'à 8h et on va parler effectivement bien sûr de ce Lucky Luke, un cow-boy dans le coton dans quelques minutes, mais pour le moment il est 7h30. Il est 7h33 et nous retrouvons notre invité culture, l'auteur, dessinateur de bande dessinée, Jules. Il y a donc, Jules, ce Silex and the City 9, la dérive des confinements chez Dargaud dont nous avons parlé avant 7h30. Et ce nouveau Lucky Luke avec HD, le troisième pour vous, un cow-boy dans le coton. Voilà donc Lucky Luke qui hérite de la plus grande plantation de coton de Louisiane. C'est une fan, une vieille dame qui a lu ses exploits dans la presse et qui en fait son héritier. Lucky Luke quitte le Grand Ouest pour se rendre dans cet état du Sud, la Louisiane, qu'il ne connaît pas. Nous sommes peu de temps après la fin de la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, mais comme c'est écrit dans la BD, on ne change pas si facilement une civilisation de racisme et d'esclavage, et cela, Lucky Luke ne le sait pas encore. Avec ce sujet, vous continuez, Jules, à combler un peu les trous dans l'histoire du cow-boy.
Oui, c'est l'idée, de façon générale, quand on reprend une série aussi chenue et vénérable, de trouver des nouvelles choses à dire sans se répéter, hein, parce que il y a un canevas qui est donné dans Lucky Luke et on pourrait faire sans arrêt le même, finalement. Et là, on a essayé d'inverser un peu la logique, où cette fois-ci, c'est Lucky Luke qui a un problème dès le départ et c'est d'autres gens qui vont l'aider à le régler. Et effectivement, ce manque criant qui nous a frappé, en fait, avec HD, quand on a commencé à répertorier ce qui avait été raconté et pas raconté sur les États-Unis, c'est que bien souvent, dans la tradition de Lucky Luke, il y a des communautés qui sont mises en avant et qui servent de fil rouge pour tel ou tel album. Les Irlandais, les Italiens, les Chinois. Mais il n'y avait ni les Juifs, ni les Noirs. Les Juifs, on y a remédié lorsqu'on a écrit La Terre Promise, qui était une histoire où Lucky Luke escortait une famille de Juifs religieux jusqu'au Far West. Mais la question des Noirs, qui était encore plus centrale, surtout en cette période de sortie de la guerre de sécession, qui a bouleversé l'histoire du pays et qui s'enracine tellement profondément qu'aujourd'hui, encore dans l'actualité, dans les dernières élections américaines, c'était absolument central. Et le mouvement Black Lives Matter, évidemment, était invisible, absolument. Et invisible non seulement de Lucky Luke, qui parle de l'histoire américaine, mais aussi la présence des Noirs comme personnages importants, positifs, héros, dans la bande dessinée franco-belge, depuis 100 ans, était proche de zéro, en fait. Depuis Tintin au Congo, la question de la communauté noire était complètement zappée. Donc il y avait eu, tout d'un coup, à la fois une responsabilité, une urgence et un besoin, tout simplement, d'affronter ces problèmes avec cette difficulté très particulière qui est que un Lucky Luke, c'est avant tout un album d'humour, un album d'action qui peut être lu par les enfants autant que par les adultes. Et comment traiter, je dirais, d'un crime contre l'humanité et sans édulcorer ce que c'est que la réalité de l'esclavage? Et comment être très juste historiquement, très documenté et approfondi, et en même temps garder cette espèce de swing, cette gaieté particulière à Lucky Luke. Donc ça a été tout l'objet de notre travail un petit peu difficile pendant quelques années pour réussir à écrire Cowboy dans le coton.
Là c'est ça, on n'est pas du tout comme dans Silex and the City dont on parlait tout à l'heure, quelque chose de réaction immédiate. Là c'est plusieurs années de travail effectivement, et évidemment votre formation d'historien compte bien sûr, parce que vous avez beaucoup réfléchi, je crois, à la façon effectivement de traiter le sujet, de la représentation des personnes noires dans la BD, même le dessin, quoi, à la manière dont Lucky Luke intervient ou pas justement dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout
ça? Oui, il y a énormément de choses que j'ai découvertes et auxquelles je n'avais pas pensé. Et en fait, je crois que c'est ça l'histoire de ces questions qui... On parlait tout à l'heure des divisions et des fractures qui nous minent, en fait, de l'intérieur, en France notamment, autour des débats sur le déboulonnage des statues. Est-ce qu'on doit retitrer Agatha Christie les Dix Petits Nègres? Est-ce qu'on doit déprogrammer Autant en emporte le vent? Et cette chose-là où il y a plein, ce sont des chocs de légitimité, il faut trouver une espèce de réponse et de sortie par le haut. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc, du coup, être rigoureux et écouter et entendre des choses auxquelles on n'avait pas pensé auparavant. C'est vrai, cette histoire d'absence des Noirs dans la BD franco-belge, j'y avais jamais pensé. J'ai voulu juste faire voyager Lucky Luke en Louisiane, puis ensuite j'ai tiré le fil de la pelote et je me suis dit, bah oui, le revers de l'esclavage, bien sûr, il y a une parodie du monde un peu à la Autant en emporte le vent romantique du Sud, et puis ensuite le revers de la médaille avec cette réalité rugueuse, injuste, follement violente de l'esclavage. Et effectivement, la représentation, on est héritier, lorsque on fait reprend Lucky Luke, de la tradition de la caricature franco-belge. Mmh. Et les personnages de Lucky Luke qui sont incroyablement caricaturaux et drôles. Mais en même temps, quand on hérite de ça et qu'on veut l'appliquer, je dirais, aux populations noires, il faut faire ultra attention de ne pas tomber dans les stéréotypes, ce qui était un peu le cas. Il y a eu quelques figurants noirs dans Lucky Luke qui étaient dessinés tous pareils, en fait, avec des grosses lèvres rouges. Et en fin de compte, c'était dans les années 60. Il y avait eu, en remontant le Mississippi, quasiment l'unique album où Lucky Luke explorait légèrement le Sud. On pouvait pas reprendre cette tradition-là. Il fallait inventer quelque chose et en même temps être fidèle à nous-mêmes. On n'allait pas faire un album à l'américaine où tout d'un coup les gens seraient extrêmement réalistes. Ça aurait été un problème aussi. Donc cet équilibre-là, on l'a trouvé justement en se disant, chacun de ces personnages noirs a un caractère, a une histoire, a une spécificité. Et donc, en fait, on va évidemment continuer à pousser la caricature, mais sans que ce soit stéréotypé. Chacun est différent, chacun à son âge, avec son tempérament, sera dessiné différemment. Et pour ça, on a aussi eu toute une documentation photographique, parce qu'on a cette chance qu'à la fin du 19e, il y a plein de documents. Et donc, la plupart des personnages, que ce soit un l'acolyte de Lucky Luke dans cette et aventure.
Oui, on va parler de lui, bien sûr.
Bass Reeves, le premier marshal noir à l'ouest du Mississippi, mais que ce soit aussi cette fille qu'on a appelée Angela, un peu en hommage, je dirais, comme une grande aïeule d'Angela Davis, et voilà, cette héroïne du mouvement des droits civiques. Tout cela, ils ont des pendants réels dans l'histoire, parce qu'on s'est inspiré des photos.
Alors Bass Reeves, justement. Donc il y a une notice sur lui à la fin de la BD.
Ouais, moi j'aimais bien ça dans les Lucky Luke, c'est à la toute fin de l'histoire, souvent il y avait des chromos, des reproductions de gravures ou de photographies, justement on voyait Calamity Jane, Billy the Kid, l'invention du télégraphe, et voilà, cette espèce de petit clin d'œil historique en disant bien sûr vous avez rigolé, vous venez de découvrir une fiction un peu folle, mais il y a une histoire réelle derrière. Et donc ce Bass Reeves, il était déjà un mythe à son époque. Il a arrêté 3000 malfaiteurs, mais il était né esclave. Il s'était enfui. Il avait fait sa carrière en Arkansas et au Kansas. C'était une espèce de, il était droit comme la justice. Et en même temps, il avait été élevé parmi les Indiens. Donc, il parlait Cherokee, Séminole. Et, il était honoré à son époque. Puis, Hollywood s'est emparé de son histoire. Il l'a mis en scène. C'est devenu The Lone Ranger. À la petite différence près, qu'il était devenu blanc en traversant la pellicule, et qu'en fin de compte, toute l'histoire du Far West, telle qu'elle nous est parvenue, à nous et au monde entier, est racontée à l'Amérique par elle-même, c'est une histoire blanche qui ne correspond en rien à la réalité historique. J'ai découvert, à ma stupéfaction, pourtant, ayant étudié l'histoire, l'ayant enseigné, qu'une chose que j'ignorais absolument, qu'un cow-boy sur quatre était noir, que presque tous les autres étaient hispaniques. Le cowboy blanc aux yeux bleus était une méga exception. Et ça, finalement, c'est pas du militantisme ou c'est pas une façon de sacrifier à l'air du temps un peu radical ou je dirais communautariste de mettre en scène ça dans une bande dessinée. C'est la stricte vérité historique et qui, sans être trop démonstratif, mais avec une espèce d'évidente bonne foi et d'évidente simplicité, doit être mis en scène et raconté comme ça, sans sacrifier à, je dirais, une quelconque pénitence. Il y a une forme de simplicité qui fait que tout le monde peut se retrouver. Et en fin de compte, cet album est sorti il y a un peu plus d'un mois, là, ce Lucky Luke. L'accueil de l'album, qui a été démentiel, en fin de compte, témoigne de ça, à la fois de cette attente et de cette façon de dépasser cette espèce de façon dont on est rongé de manière un peu mortifère sur ces questions-là. Évidemment, la mémoire de l'esclavage, c'est au programme de l'éducation nationale dans les collèges, c'est au programme des grandes institutions culturelles. Il y a une fondation pour la mémoire de l'esclavage, même en Europe. Ursula von der Leyen, dans son discours de lancement de l'année, là, a fait tout un chapitre sur cette mémoire-là et sur la question de l'inclusion, de la présence de ces questions. Et en fait, quoi de mieux que quelque chose aussi universel, pas seulement français, mais universel qu'un Lucky Luke?
Oui, mais justement, quand vous faites ça, Jules, est-ce que vous êtes dans une démarche pédagogique qui fait que vous posez toutes ces questions de traitement, etc., ou est-ce que c'est juste que, voilà, vous ne pouvez pas faire autrement parce que vous avez ce rapport à l'histoire qui est qu'on ne fait pas n'importe quoi avec.
Avant d'avoir un rapport à l'histoire, j'ai un rapport aux autres histoires. Et avant tout, je suis un scénariste qui aime bien raconter des bonnes histoires, oui, avec des rebondissements, avec plein de gags, avec des références. Et en fait, à partir du moment où je fais
avec des choses invraisemblables aussi, potentiellement.
Voilà, mais ça pourrait être juste de la pure fantaisie et ça marcherait. Lucky Luke et les lapins magiques, Lucky Luke et les poneys enchantés, ça marcherait, quel qu'il soit, qu'on ferait ça, il y aurait des ventes. Hein. Mais en fait, pourquoi pas justement aller un petit peu encore au-delà, faire résonner nos thèmes de manière fidèle hein, à l'esprit de Maurice et Goscinny, ce qui est quand même l'idée quand même principale, mais en apportant quelque chose. Mmh. Et que Lucky Luke ne soit pas juste vintage, mais que Lucky Luke soit quelque chose de qui fait avancer un petit peu notre vision, notre plaisir, avec ce principe. Moi, je sais, quand j'ai commencé à travailler sur 50 nuances de grec, j'ai des chercheurs hellénistes qui sont venus me dire, mais oui, mais ce que vous faites, c'est du spoudeo-geloion. Alors, le spoudeo-geloion, c'est une notion grecque du théâtre chéri par Aristophane, qui était le rire sérieux, c'est instruire en s'amusant. Et rien de mieux qu'une comédie, j'irais, pour passer à la fois transmettre du savoir et pour faire avancer un peu le schmilblick.